Internet ou le retour à la bougie, ça prend d'emblée le contre-pied des partisans du progrès technique qui taxent de retour au Moyen-Âge toute tentative de critique du progrès. On imagine que c'est volontaire d'avoir choisi un titre un peu provocateur, donc est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce titre et aussi la genèse du livre ?
Pour le choix de titre, oui, moi je dirais que c'est plus drôle que provocateur, parce que ça m'est venu comme ça en fait. Et j'ai eu assez vite cette idée-là, je sais pas pourquoi, Internet ou le retour à la bougie, ça m'est venu comme ça, comme une inspiration. Et finalement c'était le titre provisoire, puis je l'ai gardé parce que je l'aimais bien, parce qu'effectivement... Il définit assez bien l'idée que, au fond, il est tout à fait vain, selon la pensée dominante, de s'opposer à quelque progrès technique qui soit, qui est celui qui régit nos vies maintenant depuis 200 ans, sensiblement. Hein. Moi, je considère que la société industrielle est le début de cet avènement du monde technoscientifique où chaque évolution doit être acceptée quels que soient les coûts et quels que soient les destructions qui sont produites. J'ai appris par exemple pendant les débats, j'ai fait beaucoup de débats là depuis que le livre est sorti, que par exemple dans les premières réunions anti-nucléaires, très souvent il y avait des, on m'a raconté ça, les anciens m'ont raconté ça, que il y avait des gens d'EDF qui rentraient et qui interpellaient les militants et qui se battaient contre le nucléaire dans les années 70 en leur disant mais vous voulez retourner à la bougie. C'est plutôt pour rire que j'ai écrit ça. Alors voilà, la genèse du livre maintenant c'est mon parcours, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de m'activer beaucoup autour de la construction d'une pensée critique, parce que j'ai eu il y a quelque temps une espèce de sentiment qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que la situation était vraiment quand même assez dramatique. Et donc je me suis engagé dans diverses choses, d'abord dans une coopérative autogérée alimentaire, et de là je suis passé au téléphone portable et à Internet dans ma réflexion, dans mon travail de recherche, de curiosité simple. Hein. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Internet en étant pour moi le stade actuel de cette société industrielle capitaliste. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans 200 ans d'histoire, de transformation très importante des modes de vie, des modes de pensée, de toute une série de choses. Et je dirais même d'ailleurs plus qu'une transformation, une destruction. Dans mon livre, en tout cas, moi, j'ai une des choses que j'aime bien qui est dite, c'est le 19e siècle a détruit les savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'on faisait tous avec nos mains, les artisans, tout ça. Le 20e siècle a détruit les savoir-être ensemble, c'est-à-dire l'idée de construire des choses tous ensemble et pas chacun dans son coin. Ça a développé beaucoup l'idée de l'individu. Et le 21e siècle, là, ça sert à détruire les savoir-penser. Savoir penser autonome, c'est-à-dire que penser par soi-même, par nous-mêmes, sans passer par des machines. Voilà, et donc j'ai eu envie d'écrire ce livre pour deux raisons. D'abord parce que j'étais assez engagé dans plein de choses, donc j'ai rencontré beaucoup de, comment on pourrait dire ça, des militants, des gens qui en tout cas s'inscrivent dans une opposition au système actuelle, à l'organisation sociale et économique dans laquelle on est, et que tous les gens que j'ai rencontrés, tous, voilà, tous, à une exception près, qui est le groupe Écran Total, mais tout le monde ne se pose aucune question sur Internet, l'informatique, les smartphones, les machines, les ordinateurs. C'est-à-dire que tout ça est accepté, en fait, comme coulant de source, comme si c'était comme l'air que nous respirons, qui est là et nous en avons besoin pour respirer. Donc ça, pour moi, ça m'a posé un problème très sérieux, parce que plus j'avançais dans ma compréhension des choses, et plus moi je voyais qu'il y avait un problème absolument incompressible, incompatible, irrémédiable, entre vouloir changer le monde et accepter ce stade actuel de la société industrielle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai rencontrée à travers donc ce travail que j'ai mené pendant un certain nombre d'années, c'est que chaque fois que les médias de toutes sortes évoquaient la question d'Internet, c'était toujours sous un petit angle, en fait, c'est-à-dire sous une petite question. Et ça, c'est une aussi, c'est une des transformations, me semble-t-il, de nos sociétés, c'est-à-dire que la pensée globale, c'est-à-dire essayer d'appréhender l'ensemble de ce que peuvent produire des choses, tout ça a disparu. On est complètement chacun. Alors, chacun va défendre un petit pré carré, mais en laissant de côté complètement tout ce que ça veut dire par ailleurs. Donc, par exemple, vous avez des gens qui vont dire oui, alors Internet, ça pose des problèmes environnementaux, mais c'est quand même extraordinaire, etc. Alors d'autres qui vont dire, ah oui, alors vous avez des journalistes du Point qui ont écrit un livre qui était vachement intéressant, qui vont dire, oui, il y a un problème avec les données, la démocratie est menacée, ou des choses comme ça, mais tout le reste, en fait, passe à l'as. Et donc moi, j'ai pas trouvé ni un livre, ni un écrit, ni une émission de télé-radio qui traite de la globalité de ce qu'implique cette étape donc, dont j'ai parlé actuelle. Et donc, moi, je me suis dit, je vais essayer modestement d'écrire un livre qui traite de tous les sujets qui sont concernés par Internet, donc la globalité de ce que ça implique comme transformation encore de nos mondes, en l'inscrivant, donc, encore une fois, dans cette histoire de 200 ans de société industrielle.
En introduction du livre, il y a une citation de Semprin qui se termine par « À quels enfants allons-nous laisser le monde ?» On a plutôt l'habitude d'entendre « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» Alors pourquoi ce parti pris de mettre l'accent sur les répercussions de la société industrielle sur la condition humaine ?
Parce que ça fait partie des choses qui ne sont jamais abordées et que Jaime Semprin qui était un des animateurs de l'Encyclopédie des nuisances, traite avec beaucoup de brio et beaucoup d'intelligence, beaucoup de style, dans ce livre particulièrement, mais dans d'autres auxquels il a pu participer ou qu'il a pu écrire. Et c'est la question fondamentale qui est posée là, c'est voulons-nous gérer les nuisances ou voulons-nous les supprimer ? Voilà. C'est ça l'Encyclopédie des nuisances. Et moi, je suis partisan, sans aucune hésitation, de les supprimer. Je ne veux pas gérer les nuisances, je ne veux pas prendre des pastilles d'iode parce qu'il y a un accident nucléaire, je ne veux pas avoir à ce que mes enfants ou mes compagnons ou mes amis qui sont enceintes, par exemple les femmes qui sont enceintes, mettent au Japon, c'est ce qui est proposé, mettent des espèces de combinaisons en argent quand elles sont enceintes, pour protéger le fœtus des rayons, des antennes, des téléphones, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'attaquer à la racine et supprimer ces nuisances qui nous empêchent effectivement d'être. Une des particularités de cette évolution de la société industrielle, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est, à mon sens, et c'est ce que développe beaucoup Semprin, c'est l'expropriation des humains de eux-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qui faisait de nous des êtres humains, la sensibilité, le hasard, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui ne peut pas rentrer dans une version informatique, donc quantifiée des choses, eh bien, doit disparaître. Voilà. Et ça disparaît, le rêve, l'imagination, la création, l'ennui. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui sont très constitutives de nous et que la société industrielle est en train de complètement détruire. Et c'est pour ça que j'ai... Non seulement il y a une citation du livre en introduction, c'est-à-dire avant le début du livre, mais il y a aussi le livre se conclut par une autre citation du même livre. Voilà, parce que pour moi, ça fait référence à une pensée qui m'a beaucoup nourri et je crois qu'il faut que nous prenions conscience de ça.
J'aimerais que tu reviennes justement, que tu précises cette idée d'expropriation. Il y a beaucoup de passages qui expliquent qu'Internet rend les humains étrangers à eux-mêmes, qu'ils sont dépossédés de leur existence. On passe des journées devant un écran, connectés en permanence, pour certains totalement addicts aux écrans. C'est vrai que dans le livre, il y a un constat très sombre de ce qu'apporte Internet dans la vie humaine.
Moi, je pense qu'il n'est pas utile si on veut construire une résistance et une lutte au système de se cacher la face. Donc je pense que là, il faut être lucide. Donc moi, j'appellerais ça plutôt lucide que lugubre. Mais effectivement, encore une fois, c'est pas nouveau. Par exemple, dans le livre, je parle du mouvement anglais qu'on appelle le ludisme, qui s'est produit au début du 19e siècle, donc dans les années 1810, où les tisserands, tous les gens qui étaient dans les métiers du fil, comme ça, se sont révoltés en cassant les machines que la bourgeoisie industrielle anglaise naissante était en train de leur imposer. Pourquoi ont-ils fait ça ? Parce qu'ils avaient compris, probablement d'une façon pas très claire, mais d'une façon... quelque chose qui est humain, c'est-à-dire qu'on comprend des choses sans forcément les expliquer, donc sans pouvoir les mettre dans des cases informatiques, ils avaient compris qu'ils étaient en train d'être dépossédés de leur autonomie, de leur liberté, et surtout aussi, quand ils cassaient les machines, ils mettaient un travail soigné pour un salaire juste. Ils mettaient souvent des pancartes comme ça, parce qu'effectivement, il y a aussi le fait que ça détruisait la qualité de leur travail. Donc, ça n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a commencé déjà... C'est la société industrielle. C'est la société industrielle, c'est l'idée de produire des objets ou des vêtements, enfin, toutes sortes de choses, manufacturées donc avec consommation de masse. Hein, c'est ça l'idée. Donc, c'est la destruction de tout ce qui est artisan, de tout ce qui fait l'âme des choses, en fait. Hein, quand vous achetez un meuble chez Ikea aujourd'hui, il n'y a aucune âme dans ce meuble. C'est fait par des machines, c'est fait... Quand vous achetez une table qui est faite par un artisan, qui a mis son cœur, qui a mis son temps, qui a travaillé le bois, ben, vous avez une âme dans cette chose. Et donc, vous êtes heureux d'utiliser cette table. C'est très important, ça. Et c'est cette chose-là, c'est tout ce qui fait l'âme des humains qui a été savamment orchestré, je dis savamment, scientifiquement même, je devrais dire, scientifiquement orchestré, pour que ça disparaisse au profit d'une organisation sociale qui s'est ensuite transformée en organisation économique, dans laquelle nous n'avons plus aucune capacité de réagir. Et une des choses que j'explique, c'est que plus les outils que nous utilisons s'inscrivent dans un système technicien très complexe, et plus notre capacité de nous autonomiser est faible. Puisque qui aujourd'hui est capable de savoir comment marche Internet, comment marchent les ordinateurs, comment marchent les logiciels ? On ne sait juste à peine s'en servir. Et encore, combien d'entre nous savent le faire ? Mais on sait juste qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour rentrer dans les cases qu'on nous impose. Mais on est incapable de faire ça. C'est-à-dire qu'on est complètement vidé de notre possibilité d'intervenir sur ces choses-là. Donc, nous n'avons plus aucune autonomie. Et donc, ce qui fait l'humain, c'est la capacité à vivre ensemble et à penser ensemble le monde dans lequel on a envie de vivre. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépossédés de ça par cette organisation. Et alors, Internet, effectivement, est l'aboutissement de deux siècles de gloire au système technicien, de propagande. Et effectivement, il accentue, il accélère cette dépossession qui s'accompagne, évidemment, déjà pour les ludites en Angleterre, c'était déjà le cas, qui s'accompagne d'une volonté de coercition, c'est-à-dire de contrôle, en fait. L'idée, c'est ça. C'est que grâce à Internet et toutes ces machines merveilleuses, le contrôle de nos vies est en train de basculer dans un totalitarisme complet. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire sera contrôlé par les industriels ou les États, voire les deux. Et ça donne naissance, par exemple, en Chine, là on commence un petit peu à en parler, maintenant la Chine a pris la pointe hein, de toute l'innovation technique et numérique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le crédit social en Chine. On n'en parle pas beaucoup encore, mais ça va venir. Mais le crédit social, c'est plutôt un classement social. C'est-à-dire que chaque chose que les gens font est notée, en fait. Donc vous avez des notes qui émanent soit des industriels, soit de l'État, soit, et c'est presque le pire, de vos voisins. Donc vos voisins vous notent, et cette addition de notes en fonction de vos notes, vous avez le droit ou pas à accéder à un certain nombre de choses, à des écoles, à des vacances, à des transports, etc. Et donc, ça donne vraiment ce qu'on appelle un totalitarisme, c'est-à-dire que quelque chose où vous n'avez plus la liberté de rien, en fait, puisque tout dépend de ce que ce classement produit. Donc, on a une question qui est très dure, là. Ce que je suis en train de dire n'est pas gai, mais c'est pas parce que la seule façon de pouvoir espérer, ça c'est gai, c'est de l'espoir. Espérer s'en sortir, c'est de le comprendre déjà. Si on ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons, or, tout a été fait à tous les niveaux de la société, si on ne met pas en place la capacité à essayer d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire de réfléchir, on n'a aucune chance de changer quoi que ce soit. Donc moi, je trouve que c'est plutôt gai de comprendre ce monde, même si, effectivement, ce monde est d'une noirceur terrible et peut provoquer des désespoirs. Mais il faut transformer ce désespoir en espoir pour qu'on puisse éventuellement faire quelque chose.
Tu l'évoquais rapidement, j'aimerais que tu reviennes sur la critique des militants. Là précisément, c'est les militants écologistes, les militants libristes aussi. Les défenseurs du logiciel libre, d'après toi, Internet ne peut en aucun cas être une force d'émancipation.
Ma critique, effectivement, s'adresse à non seulement les écologistes, qui sont des défenseurs ardents de toute la nouvelle technologie. Par exemple, je pense aux compteurs Linky. Les compteurs Linky ont provoqué une espèce de mouvement de révolte incroyable auquel on ne s'attendait pas. Hein, parce qu'il y a des comités à travers toute la France, etc., à juste titre, et c'est formidable. Ben, les compteurs Linky, les écologistes officiels, défendent ça. Parce que pour eux, il faut absolument mettre toute notre organisation en ordre informatique pour contrôler tout, en fait. Donc, notre énergie, la consommation, voilà. La pensée écologiste aujourd'hui qui traverse notre pays et puis peut-être les autres, ben, c'est ça, en fait. C'est de... Par exemple, moi j'ai vu un film Internet ou la pollution cachée, je crois, quelque chose comme ça. Ou alors la première partie, c'est formidable, ils montrent le désastre. C'est-à-dire, par exemple, ils sont allés aux États-Unis, les Appalaches qui sont complètement détruites pour extraire le charbon dans des mines à ciel ouvert, les pollutions, tout ça. Et puis, la deuxième partie, c'est une ode aux compteurs Linky. C'est-à-dire que la solution pour eux, c'est les compteurs Linky. Bon, voilà. Effectivement, je trouve que les écologistes... Les communistes, les altermondialistes, enfin tout ce qui s'appelle la gauche plus ou moins radicale en France, est favorable à toute cette technologie. Si vous avez lu le programme de Mélenchon, par exemple, moi je l'ai lu, j'ai écrit une lettre. Son programme, c'est pareil, il veut conquérir la Lune, il veut conquérir les océans, il veut... c'est une ode à la nouvelle technologie, et il veut... En plus, il est dans des naïvetés terribles. Il veut remettre dans le giron de l'État les monopoles d'Internet, enfin, ce qui est complètement absurde. C'est impossible. Et là, donc, ça me permet de faire la liaison. C'est-à-dire que les gens du logiciel libre et la problématique, ils partent d'une idée qui est plutôt belle, c'est-à-dire de s'émanciper de quelque chose. Mais on ne peut pas s'émanciper d'Internet pour tout un tas de raisons. Parce que ça a été construit comme ça. Ça s'inscrit dans une pensée d'un système capitaliste industriel technique. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez rien en tirer parce qu'il a été construit par des grands groupes américains, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft. Mais il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, hein, mais eux, ce sont les principaux. Il a été construit par ces gens-là et financé par l'armée américaine. À des fins qui sont très claires, qui sont celles que j'ai exposées avant, c'est-à-dire de prendre le contrôle des gens dans la totalité de leur vie. C'est-à-dire que jusqu'alors, il y avait le salariat capitaliste avait imposé des tas de choses, de contraintes, mais là, on arrive à pouvoir avoir la mainmise sur l'ensemble de nos vies, c'est-à-dire du lever au coucher. Et donc, le problème, c'est que ce système technicien qui s'appelle Internet est gouverné par Google et quelques autres. Il fait appel à une organisation que vous ne pouvez pas... Si quelqu'un veut une organisation locale, par exemple,
et à taille humaine, il faudra regarder comment on fait pour fabriquer un ordinateur, par exemple. Est-ce que une commune libre, imaginons que nous, moi je suis assez défenseur de ça, que nous ayons des communes libres, comme disait Bookchin, un municipalisme libertaire, par exemple, comment on fait pour fabriquer un ordinateur ? Si tu n'as pas une société industrielle, capitaliste, tu ne peux pas fabriquer un ordinateur. Si tu n'as pas des sociétés énormes qui mettent des fils de fibres optiques dans l'Atlantique avec des machines extrêmement sophistiquées qui nécessitent encore une fois une organisation industrielle, au départ en Angleterre, il y a des grosses machines et ensuite ça part. Et ça traverse l'océan et ça va aux États-Unis et puis ça revient et puis ça part sur le continent européen. Si tu n'as pas tout ça, Internet n'existe pas sans toute cette infrastructure gigantesque dont on ne parle jamais. Tout ça ne peut pas exister dans un monde digne, juste, voilà, ce que défendent ces gens-là. Donc c'est pour ça que je dis... que ceux qui, je parle, je crois, de Tartuffe ou de choses comme ça, c'est une tartufferie parce que il n'y a pas de liberté possible avec Internet. Le logiciel libre, c'est pour se donner bonne conscience, mais quand tu utilises un logiciel libre et que tu te connectes et que tu utilises un ordinateur, tu t'inscris déjà dans un monde dont il faut qu'il soit vertical, dominé par des puissants qui ont de l'argent, qui peuvent fabriquer des machines qui vont aller faire des mines à ciel ouvert et donc dégager des tonnes et des tonnes de terre pour récupérer quelques grammes de dizaines et dizaines de métaux, minerais, terres rares pour ensuite les assembler, les nettoyer. Pour les nettoyer, il faut des quantités énormes d'eau, alors qu'on sait que le problème de l'eau est terrible aujourd'hui, de produits chimiques, il faut du pétrole. Et comment on fait du pétrole si on n'a pas des grandes sociétés qui vont extraire, enfin, voilà. L'émancipation de ce monde capitaliste ne peut pas passer par Internet, puisque Internet est l'étape actuelle de ce monde. C'est presque le summum de ce monde. Ils sont arrivés à un état qui est quand même... Il faut leur reconnaître ça, c'est remarquable. L'organisation de ce monde industriel capitaliste sous Internet est remarquable. Ça crée une domination et une destruction de tout ce qui fait de nous des êtres capables de penser, de nous organiser et d'utiliser nos mains et nos savoir-faire. Tout ça a été détruit au profit de machines. On ne peut pas discuter. Moi, j'ai eu un débat comme ça avec des gens qui étaient venus expliquer comment se protéger d'Internet, c'est les gros machins, comment utiliser le logiciel libre et tout. Ben, je leur dis, ben ouais, mais tu veux faire Internet dans ton village, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire pour fabriquer toutes ces machines ? Et ils ont reconnu que c'était le point. Et je lui ai dit, de toute façon, si tu veux faire Internet dans ton village, tu proposes que les gens se réunissent sur la place du marché tous les vendredis. C'est ça, Internet. Si tu veux un Internet local, écologique, qui respecte tout, ben voilà, tu proposes aux gens. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une organisation à taille humaine. Parce que Internet, c'est la démesure portée à son paroxysme. On ne peut pas faire plus démesuré. Or, si nous voulons être libres, il faut que l'organisation de nos vies, à tous les niveaux, soit à taille humaine. Voilà.
Une société à taille humaine, le dernier chapitre du livre qui s'intitule « Le retour à la bougie » prend l'exemple d'un village vendéen il y a une centaine d'années. Village qui est autonome, qui est vivant. C'est un contre-modèle de ce qu'on vit actuellement. Et puis la bougie, c'est ce qui éclaire la nuit noire de l'ère numérique.
Internet et toute la machinerie technologique, mais déjà même avant, produit des nuisances extrêmes que nous ne voyons pas. Il y a des tas de peuples qui sont assassinés, empoisonnés pour fabriquer tout ça. On a colonisé l'Afrique, par exemple, je parle de la France, hein. On a colonisé l'Afrique pour ça. Donc on a détruit comme ça des peuples, des cultures, tout ça est détruit pour cette société. Donc aujourd'hui, il y a des usines d'esclaves, principalement en Chine, mais ça commence à sortir un peu de la Chine, pour fabriquer. Les téléphones, les ordinateurs, tout ça, sont des gens qui sont en esclavage et d'une façon qui est bien pire que celle qu'on a connue au XIXe siècle en Europe. Donc ça veut dire simplement que cette forme barbare d'organisation qui était là au XIXe siècle s'est juste transposée dans une autre région du monde pour que les Européens qui sont les penseurs du monde, ce sont ceux qui connaissent la façon dont on doit s'organiser, hein, c'est ça le colonialisme, puissent ne pas voir cette chose-là. Donc que les peuples restent dans un espèce de déni de... Comme on ne voit pas, on n'est pas très sensible aux choses. Et donc, si on conteste ça, c'est-à-dire si on veut vivre... par exemple, beaucoup de gens là parlent du climat, donc on veut ne plus utiliser les énergies fossiles. Il y a beaucoup d'associations là qui sont sur Internet, d'ailleurs, entre parenthèses, qui militent avec des pétitions sur Internet, en postant des vidéos sur YouTube qui consomment une énergie effarante et qui envoient des milliards de mails à longueur d'année. Bon, bah, ces gens qui disent « on ne veut plus sortir les énergies fossiles du sol », mais si tu fais ça, moi je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tu mesures ce que ça veut dire si on n'a plus de pétrole ? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut revenir à la bougie si tu n'as plus de pétrole. Parce que sans pétrole, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité. L'électricité, le nucléaire est très faible dans le monde. Hein. C'est ridicule. Et même le nucléaire sans pétrole ne marche pas. Si tu ne vas pas extraire l'uranium du Niger, si on ne va pas détruire la santé et esclavagiser les Nigériens, eh bien, on n'a pas de nucléaire. Donc, il n'y a pas d'électricité sans charbon aujourd'hui dans le monde. Si tu n'as pas d'électricité, toute l'organisation s'écroule. Tous ces gens merveilleux qui veulent qu'on laisse les énergies fossiles à cause d'un problème qui est très grave et qui est vrai, c'est-à-dire le problème du dérèglement climatique, on le voit bien aujourd'hui, on est dedans, il y a des tas de problèmes. Cet été, moi j'avais entendu que dans le Jura, ils n'avaient plus d'eau. Il y avait des camions citernes qui allaient apporter de l'eau dans des villages, dans le Jura, en France. Donc c'est-à-dire, on est vraiment dans une situation critique. Mais si on prend les solutions du GIEC, les experts, tous ceux qui pensent à notre place, là, moi, je conteste toute cette organisation scientifique, je conteste la science. Et ben donc, il faut revenir à une organisation à notre mesure, effectivement, comme c'était le cas il y a 100 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va revenir tel que c'était il y a 100 ans, parce qu'on peut profiter de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on a mûri, de l'évolution de... Il y a quand même des choses qui sont sorties dans les pensées, dans les trucs, mais... En tout cas, il faudra revenir à quelque chose une organisation dans laquelle les humains sont maîtres, n'ont pas besoin de toute cette quincaillerie industrielle pour organiser leur vie. Et chacun devra choisir collectivement comment a envie de vivre. Moi, j'ai pas de solution miracle. J'ai juste de dire que si on veut effectivement échapper à la domination capitaliste, à la coercition informatique et à la destruction du climat par les énergies fossiles, eh ben on est obligé de repenser le monde sans tout ça. Et donc, il va falloir revenir probablement à la bougie, mais chacun choisira en fonction des territoires, des aspirations, comment il veut s'organiser. Encore une fois, tout ça est collectif pour moi, il n'y a aucune solution individuelle.
On Route 66, he winds from Chicago to LA, yeah. More than 2,000 miles all the way, yeah. Get your kicks on Route 66. Yeah, you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and North Oklahoma City, Little Mighty Freddy. You see, I'm a real old Gallup, New Mexico. Arizona, don't forget we know now. Kingston, Compton, San Bernardino, won't you get hip to this town we do? When you make the California trip, yeah, get your kicks on Route 66, alright.